Nous tous, qui sommes ici rassemblés, fermons les yeux et essayons d'imaginer la nuit de l'autre, aveugle. Songeons qu'il n'a jamais vu les couleurs de l'arc-en-ciel, de la terre se couvrant de sa robe printanière, du ciel et de la mer. Et un jour, Jésus vint. Et pour la première fois, ses yeux émerveillés découvrent ce que nous, nous voyons depuis toujours. Dans ce temps de culte, rejoignons le cri de joie de l'aveugle qui, par la grâce du Fils de Dieu, a vu pour la première fois. Fermons maintenant nos oreilles et essayons d'imaginer le silence de l'autre. Songeons qu'il n'a jamais entendu l'écoulement joyeux des notes d'une guitare, ni la plainte lancinante d'une flûte au lointain. Et un jour, Jésus vint. Et pour la première fois, ses oreilles étonnées apprennent ce que tu entends depuis toujours. Dans ce temps de culte, rejoignons le cri de joie du sourd, qui, par la grâce du Fils de Dieu, a entendu pour la première fois. Taisons-nous, ne parlons plus, et essayons d'imaginer le mutisme de l'autre. Songeons qu'il n'a jamais parlé, que jamais sa gorge n'a frémi aux caresses des mots. L'ivresse de la parole, il ne la connaît pas. Et un jour, Jésus vint. Et pour la première fois, sa langue se délie et la parole se déploie. Dans ce temps de culte, rejoignons le cri de joie du muet, qui par la grâce du Fils de Dieu a parlé pour la première fois. Prenons le chemin de l'Évangile et nous verrons ce que peut-être nous n'avons jamais vu. Et nous entendrons des musiques inconnues et nous dirons des mots étranges, des mots d'amour et de paix. Amen. Vous pouvez vous lever et donc nous chanterons les spontanés. Enfin, ce n'est pas les spontanés, c'est justement c'est les cantiques indiqués au tableau. Donc nous commençons par le 45-24, les strophes 1 et 4. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce temps de culte à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou habitués de ces bancs, sentez-vous accueillis. Merci à Claude Françoise pour sa virtuosité qui accompagnera nos chants et sera un élément fondamental de la liturgie. Nous aurions souhaité que ce culte soit celui du réveil de notre orgue après sa révision poussée. Mais à bientôt 55 ans, ce dernier est devenu plus lent, plus poussif, et nos deux facteurs d'orgue, Fabienne et Dominique, n'ont pas pu le réveiller de sa sieste pour aujourd'hui. Mais ça va venir bientôt. Cela nous vaut le plaisir de voir Claude François jouer dans le chœur. Et encore merci. Merci à Yvon, Serge et Nicolas pour leur accueil fraternel et la préparation du repas du Seigneur. Bon, pour tout vous dire, j'avais basé en partie la liturgie sur le thème de la musique. Mais après tout, peu importe, c'est toujours la fête de la musique dans nos cultes. Grâce au talent de nos musiciens et surtout à la virtuosité, je vais y arriver, la virtuosité de vos chants. Donc, notre pasteur Vincent est en train de célébrer le culte à Bellegarde en ce moment même. C'est Marivonne qui va faire résonner pour nous la musique des mots de la Bible. Elle nous donnera son interprétation, tout en nuances, de la présentation de Jésus au temple. Et donc, nous chanterons les cantiques indiqués sur le tableau, à part les deux derniers qui sont les spontanés. Moi, je vous dirai, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Que chacun puisse recevoir aujourd'hui, avec faiblesse et humilité, ce que Dieu veut lui suggérer. Et nous louons Dieu avec un texte d'Antoine Nouys. Louange à toi, Seigneur Dieu, toi qui créas la musique, le chant des oiseaux, le souffle du vent, le murmure des océans. Avec les astres et les océans qui n'appartiennent qu'à toi, avec le rythme des saisons, liturgie pour notre temps, avec les musiques et les parfums, les couleurs que tu créas, avec les sources et la terre, les montagnes et le vent, avec tes œuvres et avec tes anges, nous entonnons une louange. Avec l'oreille attentive qui reçoit une confidence, avec l'homme qui se révèle, qui se relève et recommence avec courage, avec l'enfant en prière qui découvre la confiance, avec le père qui revient après un long voyage, devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec les hommes qui se retrouvent pour célébrer ta victoire, avec l'Église rassemblée qui apprend le silence, avec les jeunes et les vieux qui construisent une histoire, avec tous ceux qui se battent pour que vive l'espérance, nous entonnons une louange. Et je vous invite à vous lever pour chanter le psaume 36, « Au Seigneur ta fidélité », et nous chantons les deux premières strophes. Reprendre place. Seigneur, je sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Amen. » Et nous restons assis pour chanter le cantique 45-10. J'ai soif de ta présence. La première strophe.
J'ai soif de ta présence.
Pour accueillir une parole qui nous pardonne, telle que nous sommes, je vous invite à vous lever. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Amen. Et nous chantons le cantique 42-08, la strophe 3. Toi qui disposes.
Que par ta grâce, l'instant qui passe, sert à nous rapprocher chez toi, et que chacun
je pense que vous pouvez vous reprendre place. Le silence, c'est face à la douleur d'un ami, ne rien pouvoir dire parce qu'on ne sait pas quoi dire et qu'on décide de ne rien dire. Le silence, c'est savoir se taire quand on ne sait pas répondre. Le silence, c'est manquer de mots pour louer ce Dieu qui pourtant est le seul digne de louange. Le silence, c'est contenir sa critique, sa colère, mettre un frein à sa bouche tant que le méchant est devant soi, de peur de pécher par sa langue. Le silence, c'est exprimer une certaine pudeur et prier en laissant l'Esprit Saint exprimer ce qu'on a sur le cœur. Le silence, c'est abandonner ses vaines justifications, ses vains efforts, pour compter sur Dieu et uniquement sur lui. Le silence, c'est prendre le temps de savourer les interventions de Dieu dans notre vie. C'est dans les moments de détresse lui faire pleinement confiance. Le silence, c'est effectuer le premier pas nécessaire de l'écoute. L'écoute de l'autre et l'écoute de Dieu. Le silence est utile pour donner un sens complet aux paroles prononcées. Le silence, c'est jouir de la personne d'autrui et de sa présence. Et même si le silence peut être mensonge, indifférence, mépris, incompréhension, enfermement, je n'aurai de cesse de me taire pour le silence. C'est un texte de Sylvain Triquenot, avec pas mal d'extraits, peut-être que vous en aurez reconnu quelques-uns. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 4105, la première strophe.
Ce jour-là, Seigneur, ton visage devient tout autre. Ton visage d'homme laissa apparaître la lumière de Dieu. Nous regardons vers toi, Seigneur, nous regardons ta vie, ce que tu fais pour nous, et c'est déjà la clarté d'une vie sans fin qui naît sur nos visages. Donne-nous, Seigneur, ton esprit pour accueillir ta parole qui réveille, qui invite, qui bouscule, qui interpelle. Et c'est déjà la musique d'un bonheur sans fin, chantant dans le monde. Parmi les textes proposés aujourd'hui, je vais simplement lire donc dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 40. Puis, le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. » C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Simon disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. » Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Aujourd'hui, nous sommes la Chandeleur, la fête des chandelles ou la fête de la lumière, qui est directement liée à ce texte de la présentation de Jésus au temple. Jésus, au travers des yeux de Siméon, est reconnu comme la lumière qui se révèle aux nations. Cette fête de la Chandeleur est également appelée fête de la rencontre dans les églises d'Orient. Et là aussi, ce texte est le récit d'une rencontre entre Jésus et Siméon, puis Anne. Mais avant de parler de cette rencontre et de ce qu'elle révèle, quelques éléments de contexte. En présentant Jésus au temple, ce qu'il est vraiment important de rappeler, c'est que Marie et Joseph s'inscrivent totalement dans le respect de la loi juive. Il était en effet de coutume que chaque premier-né garçon soit consacré à l'Éternel. L'idée était que quand on offre à Dieu ce qu'on possède en premier, on offre toute sa vie sous la bénédiction de Dieu. Toute vie vient de Dieu, et lorsqu'une famille a un enfant, elle reçoit un merveilleux cadeau de Dieu, et pour remercier Dieu, elle lui consacre le premier-né de ses garçons. Il y avait également l'idée d'une purification spirituelle de l'enfant. Lorsqu'une mère mettait au monde un enfant, elle devenait impure rituellement. Elle était donc exclue du culte jusqu'au jour de sa purification. 40 jours après la naissance d'un fils, 80 jours après celle d'une fille. Nos comments sur ces différences sexistes. Le temps de purification s'achevait donc avec l'offrande d'un agneau âgé d'un an ou de deux jeunes colombes pour les plus pauvres. Mais revenons au texte et à ces deux personnages centraux, Siméon et Anne. Tout d'abord, Siméon. Siméon signifie « Dieu a exaucé » ou « celui qui écoute, celui qui se place à l'écoute ». Il y a donc deux sens à ce prénom, non pas deux sens différents, mais deux sens complémentaires. Est-ce que celui qui sait se mettre à l'écoute de lui-même, des autres et de Dieu, n'est-il pas déjà quelqu'un que Dieu a exaucé ? Mais qui est ce Siméon du texte ? Siméon est un homme imbibé de foi qui a attendu toute sa vie la consolation d'Israël et il a attendu la rencontre avec Dieu. Siméon était dans une attente active. Il est noté qu'il était juste et pieux. Il traduisait donc en acte son espérance et cette attente. Avec les yeux de la foi, Siméon reconnaît dans la fragilité de ce bébé désarmé le salut de Dieu. Siméon, cet homme âgé, reçoit la lumière du monde dans ses bras, la lumière pour la révélation aux nations. Et le salut de Dieu, c'est bien cette dimension universelle du salut pour tous. Mais Siméon l'annonce, cette dimension universelle ne se fera pas sans contradiction. Siméon prédit que Jésus est le Sauveur, porteur du salut, mais aussi qu'il sera un signe qui provoquera la contradiction. Le texte de ce jour ne ferme pas les yeux sur les réalités déplaisantes, mais il nous interdit de les considérer comme fatales. Le temps de la grâce, c'est aussi celui de la confrontation entre chute et relèvement, épreuve et rédemption. car il n'y a pas de promesse sans risque, et l'accueil du salut n'exclut pas la liberté du refus. Ce texte pose déjà les pierres de tout ce qui sera le ministère de Jésus. La réalisation d'une attente, la réalisation de cette attente par une rencontre, mais aussi Jésus, porteur de salut, sera aussi porteur de contradictions. Jésus sera un révélateur au sens photographique du terme. Il apportera un nouvel éclairage sur les choses et sur la vie. Et ce texte est déjà porteur de ces contradictions et de ces contrastes. Contradiction de génération, Siméon et Anne sont âgés, Jésus est un bébé. Contradiction aussi sur la valeur de Jésus. Marie et Joseph offrent en sacrifice deux tourterelles, ce qui est le sacrifice demandé aux familles les plus pauvres. Donc Jésus vaut deux tourterelles à sa naissance. Ceci est à mettre en parallèle avec les 30 pièces d'or de mise à prix de Jésus à la fin de sa vie, qui est aussi une somme pas très élevée. J'ai lu que ça équivaudrait à peu près à 3 900 €. Le prix économique modeste de Jésus, au début et à la fin de sa vie, est en totale contradiction avec sa valeur spirituelle et théologique. Et il y a aussi une contradiction entre Siméon, qui attend de voir le Christ pour croire, et ensuite ce qu'on nous dit au moment de la résurrection de Jésus et de Thomas, on nous dit que heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Mais revenons à Siméon et ce qu'il se passe pour lui après sa rencontre avec le Sauveur. Une fois cette rencontre passée, Siméon a trouvé la paix. Il a conservé au cœur la consolation de cette rencontre. Siméon est, à mon sens, le premier chrétien, quelqu'un qui attend la lumière contre vents et marées, pour lui, pour les autres, dans l'espérance et la confiance. Et après Siméon, le texte évoque Anne, la prophétesse Anne. Alors pour Anne, il est fortement insisté sur son âge, 84 ans. Aujourd'hui, les personnes de 84 ans ne sont pas âgées. À l'époque, l'espérance de vie était de 35 ans. Donc, une personne de 84 ans était remarquable par son âge. De plus, 84, c'est 7 fois 12, un chiffre et un nombre porteurs de nombreux symboles. Le chiffre 7 représente la perfection et le 12 exprime l'élection. Anne est donc hors norme de par son âge et le symbolisme qui est derrière. Elle est aussi à part de par son prénom et son origine qui lui donne une dimension spirituelle supplémentaire. Étymologiquement parlant, Anne signifie « grâce de Dieu ». Par ailleurs, il est dit que Anne était fille de Phanuel, qui signifie « visage de Dieu », et qu'elle était issue de la tribu d'Asser, Asser, qui signifie le bonheur et le fait d'avancer. Anne, c'est tout un programme. Grâce de Dieu, fille de la face de Dieu, de la famille, du bonheur d'avancer avec Dieu. Normalement, une femme très âgée et veuve avait une position sociale déclassée et n'aurait pas dû être écoutée. La reconnaissance de la parole d'Anne, sa capacité à être écoutée, est déjà un élément frappant de ce texte. Et même si, contrairement à Siméon, ses gestes et ses paroles ne sont pas précisés et retranscrits, la force de son témoignage est perceptible. Anne, comme Siméon, attend. Comme Siméon, elle reconnaît Jésus. Mais contrairement à Siméon, qui se retire en paix, après la rencontre, elle parle, elle loue, elle partage la bonne nouvelle avec le monde et avec ses contemporains. Publiquement, au cœur du temple, symbole du pouvoir religieux, elle présente l'enfant Jésus comme la réponse à l'attente, la libération de tout un peuple. La vieille et pieuse Anne, transformée par sa rencontre avec Jésus, se tourne vers Dieu. dans une attente de louange, une attitude de louange, mais elle se tourne aussi vers les autres. Jésus, nouveau-né, accueilli par un homme et une femme âgés. Anne, présente pour annoncer le Messie. Simon, présent pour dire le salut. Tous deux ne sont pas figés dans l'attente de la promesse et de l'arrivée du Seigneur, mais unis et mis en mouvement par le souffle de l'Esprit. Notre foi s'ancre dans un Dieu qui bouge et qui fait bouger. Personne n'est exclu de la rencontre avec le Seigneur. Dieu passe dans la vie de chacune et chacun. Et chaque chrétien est appelé à être en veille pour le reconnaître et accueillir sa paix. C'est un message d'espérance et de joie, mais c'est également une invitation à être en mouvement, à ne pas être des chrétiens repliés. Ce texte nous enjoint, quelle que soit la période de notre vie, notre âge, notre lassitude, notre degré de foi, de savoir discerner et d'avoir le courage de l'engagement pour choisir la lumière, privilégier la vie. Que Jésus, ce bébé, cet inattendu de Dieu, nous donne ou nous redonne le courage d'espérer chaque jour de notre vie. Il n'est jamais trop tard, puisque ça commence aujourd'hui. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique. 45-08 à la page 688 et les trois premières strophes. Restez debout, en fait. En fait, en guise de confession de foi, nous restons debout pour entonner le cantique 61-82 à la page 960, les deux strophes.
Nous croyons en Dieu le Père, du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le Créateur. Nous croyons au Fils unique, Prince éternel, roi pacifique, Jésus le Christ, le Rédempteur. Croyons la Sainte Église qui
vraiment vous asseoir.
Voici le moment de l'offrande que chacun donne selon ce qu'il a décidé en son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Père, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande. Que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. C'est le temps des annonces. Donc tout d'abord, un grand remerciement à Claude Françoise, parce que c'est vraiment bien de voir les organistes d'habitude se sont cachés sur la tribune. Donc là, c'est très bien. Un merci également à Nicolas et Yvon Serge pour l'accueil. À Christophe pour avoir préparé ce culte. Et donc, sinon, les annonces. Alors, les annonces classiques, c'est chorale mardi à 19h15, groupe de prière mercredi à 18h au temple. Demain, la veillée de prière, donc vous avez dû recevoir un message peut-être sur, si vous êtes dans la liste de diffusion, une veillée de prière, donc c'est à Sainte Bernadette. Voilà, et pas au temple. Et c'est à 18h30, c'est ça? Il me semble que c'est à 18h30 à Sainte-Bernadette, veillée de prière de Thésée. C'est dans la suite de la semaine écuménique. Des nouvelles de Pierre, notre président, qui n'est pas là encore, il continue sa convalescence. Aux dernières nouvelles, il se portait bien. Et il y revient vers nous dans une quinzaine de jours. Il est prêt à recevoir qui a envie dans sa maison de l'Échaud. Donc si vous êtes dans les parages, vous pouvez aller le voir, il sera très content. Il m'a dit qu'il buvait beaucoup de thé parce qu'il avait beaucoup de gens qui venaient le voir, donc il était très content. Donc notre pasteur est à Bellegarde pour le culte. Hier, nous avons eu le plaisir de partager une journée de formation de prédicateurs avec l'ensemble des paroisses du consistoire, et c'était une journée très, très agréable, très instructive, animée par le pasteur du Pays de Gex et notre pasteur. Je vous rappelle que du 19 au 23 mars, c'est le festival Happy Back qui se précise avec le temple comme cœur de cet événement. Vous allez avoir rapidement tout le programme et j'espère que vous serez nombreux à assister à tous ces événements, pour la plupart gratuits. et avec d'excellents musiciens qui viendront jouer tout au long de ces 4 jours entre le conservatoire, la cathédrale et beaucoup, beaucoup, beaucoup au temple ici. Mo va venir vous parler de quelque chose qui se profile pour le mois de octobre.
Bonjour à tous. Je viens vous parler d'un projet que nous sommes en train de contacter avec Richard, d'un voyage dans les vallées vaudoises du Piémont sur les traces justement de ces Vaudois qui se sont installés à Torre Pellice et dans la vallée. Donc nous allons le projet lui-même va être décrit dans le prochain nouvel, mais nous mettons maintenant déjà dans le couloir dans le hall d'entrée le texte présentant ce voyage pour vous inviter à vous inscrire. Nous ne ferons ce voyage que si nous sommes 25 et il se fera du 19 au 23 octobre. Donc voilà, nous sommes en train de préparer, il y aura des visites des différents sites avec un guide et nous partirons en car depuis Annecy, et ça durera donc 4-5 jours. Je pense que le prix sera entre 450 et 500 euros, tout compris, repas, nuit et visite. Voilà, donc je vous mets tout ça on vous placarde ça dans le couloir, et nous prendrons les inscriptions par ordre d'arrivée. Et il y aura une liste d'attente au fur et à mesure, d'accord ? Parce que c'est peut-être un peu tôt pour certains pour s'inscrire, mais autant s'inscrire, et puis après, s'il y a un problème, on le sait, et on aura de toute façon une liste d'attente, d'accord ? Voilà.
Alors, avant Jean-Michel, je vous invite vraiment à vous inscrire, parce que c'est vrai que ces voyages de paroisse, on a eu l'occasion d'aller à l'Assemblée du désert, par exemple, ensemble, à Strasbourg pour protestants, en fait, et c'est des souvenirs mémorables.
Bonjour à tous. Je suis le fils d'un professeur tellement ma mère. Moi, je veux demander à Dieu. Je ne veux pas que ma mère soit morte. Elle reste en vie. Parce que je l'aime. Je demande à toi, Dieu. Je ne veux pas que ma mère soit morte. Hors de question. Je veux que ma mère soit là. Je t'aime, maman.
Il est bon. Il marche. Pardon. Il est bon et joyeux de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et joyeux d'être les invités, les amis, les frères de Jésus le Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, de sa promesse et de son royaume, dans ce pain et dans ce vin. Il est bon et joyeux d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'en ce pain et ce vin, nous ayons communion les uns avec les autres, et que nous recevions chacun et tous ensemble la vie qui vient de Dieu, Il est bon de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il reçut une coupe. Et après avoir rendu grâce, il dit « Prenez-la et partagez entre vous, car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Et Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin. Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu sais notre faiblesse, nous te le demandons. Fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie, que rien désormais ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Fais au contraire de nous des êtres vivants de l'Évangile, réunis dans une même foi au service de tous. Seigneur, nous annonçons la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection. Nous attendons son retour dans nos cœurs.
Nous prions avec les mots de sœur Myriam. Mon Dieu, ô mon Dieu, je ne sais pas prier. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas ce que tu fais de mon cri, de ma peur, de mon ennui. Je ne sais pas ce qu'on nomme la prière. Est-ce, mon Dieu, ce soupir immense qui monte des profondeurs de ma vie et semble se perdre comme un souffle dans le ciel ? Est-ce, mon Dieu, cette timide confiance qui ose à peine croire à demain ? Est-ce, mon Dieu, cet appel qui semble se perdre comme l'écho dans les montagnes ? Mon Dieu, ô mon Dieu, je ne sais pas prier. Je n'ai jamais croisé ton regard. Je n'ai jamais vu ton sourire. Je n'ai jamais serré ta main. Tu n'as pas marché près de moi. Mon Dieu, comment pourrais-je te prier ? Mais en fait, nous avons appris à prier. Donc je vous invite à redire avec une ardeur renouvelée la prière que tu nous as enseignée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et je vous invite à vous lever pour chanter le spontané de la scène, Grains de froment. Donc les spontanés, vous les avez dans les petits feuillets crus à l'entrée de votre recueil. Avec lui et à la partager les uns avec les autres. Ainsi,
Selon la tradition de notre Église, vous êtes toutes et tous invités. Ce repas ne nous appartient pas. Il n'est la propriété d'aucune Église. Il nous est offert par grâce, par Christ, le Seigneur du monde. Par ce repas, nous confessons notre foi en Christ, c'est-à-dire que nous reconnaissons Jésus comme Seigneur de nos vies et que nous nous savons enfants de Dieu, notre Père à tous, et que nous essayons de mettre nos vies au service de la parole de Dieu. Nous vous invitons à former un cercle autour de la table de communion. Si toutefois vous ne désirez pas participer, n'hésitez pas quand même à prendre place dans le cercle pour vous associer à la communion. Les accueillons vous distribuent du pain et des gobelets individuels de jus de raisin. Faites simplement un petit signe si vous ne souhaitez pas prendre le pain et prendre le vin. Bien sûr, vous êtes aussi libre, si vous le préférez, de rester assis à votre place. Vous êtes invité, venez.
Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la fraternité dans la foi et la communion de ce repas. Donne-nous de les cultiver pour ses frères et ses sœurs, leur présence et leur ferveur. Donne-nous de savoir les aimer pour la nourriture de ta présence qui est la sève de notre espérance. Donne-nous de la conserver pour la grâce de ce festin qui éclaire notre chemin. Donne-nous de savoir la partager. Amen.
Merci Seigneur pour la joie de ce repas partagé et la force transmise par notre assemblée.
Frères et sœurs, ne craignez pas d'affirmer paisiblement l'évangile dont nous vivons, non comme un bouclier contre ceux qui ne partagent pas nos convictions, ou comme une arme pour condamner ou pour exclure, mais comme l'annonce d'une délivrance de toutes les formes d'injustice, de souffrance et de mort, déjà acquises pour tous à la croix. Et que
alors,
le
Seigneur. J'ai un truc à dire. Hier, on nous a dit, il y avait un participant à la formation prédicateur qui a dit que les paroissiens, quand ils allaient au temple, ils regardaient devant et ils ne regardaient pas forcément à côté, ni derrière, voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que chacun bénisse son voisin. Donc si vous voulez faire le geste que vous voulez, nous on va faire un geste de bénédiction, vous pouvez faire un geste ou ce que vous voulez, et de dire Amen à la fin en même temps, que chacun se bénisse en se regardant, voilà. D'accord ? On y va ? Et que le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, vous bénisse et vous garde. Allez, confiant dans son amour et dans sa paix. Amen. Et donc nous allons chanter que la grâce de Dieu soit sur toi.
Alors si on peut se
faire.